Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. L'usine Bridgestone de Béthune va fermer. 863 emplois sont en jeu. Vous entendrez la colère du maire de Béthune dans un instant et l'analyse d'Anne-Laure Jumet. Le Liban n'a toujours pas de gouvernement. La France s'impatiente et appelle les politiques libanais à prendre leurs responsabilités. Nous verrons ce qui bloque avec notre correspondant au Liban, Aurélien Colli. Une nouvelle vague de violence complique la tâche du gouvernement irakien. Pour mettre fin au crime organisé, il s'efforce de confisquer les armes illicites, mais la tâche est immense. Près de 7 600 000 armes seraient détenues par des civils en Irak. C'est le dossier de ce journal. Face aux menaces sanitaires, au changement climatique, à la crise économique, l'Europe doit se montrer plus unie. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, appelle à une Europe de la santé. C'est un nouveau coup dur pour les Hauts-de-France. Bridgestone va fermer son usine de Béthune dans le Pas-de-Calais. Le spécialiste de la fabrication de pneumatiques pour voitures a prévenu les salariés ce matin. Il prévoit la cessation totale et définitive de l'usine, invoquant une surcapacité de production en Europe, ainsi que la concurrence des marques asiatiques à bas coût. Le site de Béthune emploie actuellement 863 personnes. Le groupe japonais assure vouloir limiter au maximum le nombre de licenciements grâce à des mesures de pré-retraite, de reclassement et grâce à la recherche d'un repreneur pour le site. Mais le gouvernement et le président de la région, Xavier Bertrand, réagissent vivement. Ils s'étonnent de cette décision brutale. Et c'est également le cas du maire UDI de Béthune, Olivier Gacquer.
La première réaction qu'on a, c'est une réaction d'humiliation parce que depuis plusieurs années, nous avions des contacts avec le groupe, avec la direction, chercher des solutions à un projet industriel. Tout allait bien. On a toujours repoussé notre main et aujourd'hui, on nous annonce brutalement que c'est fermé. Il y a un sentiment très profond que finalement, la décision a été prise depuis très longtemps. Tous les indicateurs démontrent que finalement, c'était voué à l'échec et qu'il y avait cette volonté d'assécher l'usine et de la fermer. Et donc, on demandait est-ce qu'éventuellement, on puisse avoir une autre forme de production sur des pneus connectés, sur des pneus finalement innovants. Et nous, on nous a laissé plutôt une production de pneus qui, effectivement, ne trouvent plus de débouchés, sur une chaîne de production qui n'a pas été modernisée, avec des maintenances qui n'ont pas été réalisées, plus d'investissements depuis X années. Enfin bref, pendant qu'à Béthune, on avait du mal à sortir nos tickets de production journaliers, eh bien, en Hongrie, en Pologne, les chaînes se développaient. Barry, qui devait fermer en Italie, a été sauvé. Bref, on s'attendait finalement à cette chose-là. Maintenant, on aurait aimé être prévenu bien en amont, qu'on puisse discuter sur des scénarios alternatifs. Il n'en a rien été, on apprend ça brutalement ce matin et franchement, c'est violent.
Olivier Gacquer avec Frédéric Carbone sur France Info. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
La région et le gouvernement réclament d'une seule voix l'examen de scénarios alternatifs. Est-ce qu'il y a une chance pour qu'ils soient entendus par Bridgestone et quels sont leurs moyens de pression?
Eh bien, c'est une pression politique qui est mise sur le groupe japonais. Cette pression-là peut jouer, estime un ministre, tout en reconnaissant qu'en dehors de ce levier d'action, il n'y a pas grand-chose à faire. En tout cas, les mots utilisés sont forts. C'est une trahison de la confiance placée dans l'entreprise, estime le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Quant au président de la région des Hauts-de-France, le LR Xavier Bertrand, il parle d'assassinat prémédité, prévu de longue date, et dit à propos de la direction que ce sont des menteurs, des cyniques. Il faut dire que cette annonce, c'est un séisme dans ce bassin d'emploi déjà frappé par de nombreuses fermetures d'entreprises, notamment dans le même secteur de la fabrication de pneus. On pense à Continental et à Goodyear. Le reproche qui est fait à Bridgestone, c'est d'avoir mis en œuvre un plan qu'il avait en tête depuis longtemps, on l'a entendu, et d'avoir écarté toutes les propositions faites pour éviter la casse sociale, car l'État et la région disent s'être inquiété de la situation auprès de la direction, notamment depuis le rejet par les salariés d'un accord de performance collective. C'était en mai 2019. Aujourd'hui donc, le gouvernement attend du groupe qu'il étudie les alternatives à la fermeture de l'usine, compte tenu des moyens mis en œuvre dans le plan de relance. À Bercy, on estime notamment que le groupe pourrait demander des financements pour moderniser l'appareil industriel et donc réaliser des gains de productivité. Pas de réponse à ce stade des dirigeants de l'entreprise qui évoquent de leur côté une concurrence croissante des marques asiatiques à bas coût et soulignent que cette usine est la moins performante des sites du groupe en Europe.
Anne-Laure Jumet, le président de Suez est reçu en fin de journée à Bercy. Philippe Varin compte expliquer au ministre de l'économie pourquoi il refuse d'être mangé par son rival Veolia et pourquoi il veut au contraire accélérer son plan de développement avec des partenaires investisseurs. Suez est actuellement en négociation avec Prezero, branche du groupe allemand Schwarz, pour lui céder des activités de recyclage. Nous continuons de suivre le procès des attentats de janvier 2015. La Cour d'assises spéciale de Paris retrace aujourd'hui la fin de la cavale des frères Kouachi après la tuerie de Charlie Hebdo. Les deux fugitifs s'étaient retranchés dans une imprimerie à Dammartin-en-Goële en Seine-et-Marne. Cet après-midi, c'était le récit de la prise d'otage dans l'imprimerie, avec d'abord la déposition du patron Michel Catalano qui a tout fait pour que son jeune employé ne soit pas découvert, Florence Turm.
J'avais accepté le fait que j'allais mourir. Toutes les angoisses, elles sont arrivées après Mais mon Dieu, que c'était dur. Michel Catalano s'effondre en pleurs à la barre. Il vient de raconter ce qu'il a pourtant si souvent raconté déjà dans les médias, les lycées, les prisons. Il est celui qui a passé le plus de temps avec les frères Kouachi, arrivé dans son imprimerie au petit matin, décidé à en découdre avec les forces de l'ordre. Lui, le chef d'entreprise, obsédé par une seule chose, que les terroristes ne trouvent pas son jeune employé, Lilian, caché dans un placard minuscule où il va rester 8h30. La photo s'affiche sur l'écran, un meuble sous évier, le jeune homme s'approche de la barre à son tour. J'ai ouvert la porte, poussé quelques objets et je me suis recroquevillé à gauche du siphon. Recroquevillé dans le silence, 8h30, à écouter les terroristes parler avec Michel Catalano, entendre l'un d'eux s'approcher du réfectoire, ouvrir le frigo, les placards pour chercher quelque chose à manger, se rapprocher de lui. J'ai vu son ombre à travers le liseré de la porte, raconte Lilian, très droit à la barre mais la voix brisée. Il ferme les yeux, baisse la tête, reprend avec difficulté. Je l'ai vu ouvrir le robinet et se laver les mains. L'eau ruisselait dans mon dos. Mon cerveau était en pause, mon cœur était en pause. C'était irréel. Irréel. Il a de plus en plus de mal à poursuivre. Dans la salle, un silence absolu et le temps était long. Je faisais les pires scénarios dans ma tête. Je pensais à mes parents, à ma femme, à ma sœur, à tous ces gens que j'allais peut-être laisser et à ce qu'ils auraient comme peine. Il craignait que son portable ne vibre, que les terroristes l'entendent. Les téléphones de la société n'arrêtaient plus de sonner. Il finit par sortir le sien, envoie un message à sa famille. Un autre s'affiche en retour. T'inquiète pas, on est avec la police. Et là, j'ai craqué, j'ai pleuré, on ne m'avait pas oublié et j'ai envoyé à mon tour, par pitié, faites vite.
Florence Turm avec Eric Audra à la technique et vos chroniques judiciaires sont rassemblées sur le site franceculture.fr. Elle voulait être reconnue comme la mère de sa fille. Une femme transgenre voit sa demande rejetée par la Cour de cassation. Fin 2018, la Cour d'appel de Montpellier avait accordé à Claire le statut de parent biologique, mais la Cour de cassation casse aussi ce jugement et renvoie l'affaire à la Cour d'appel de Toulouse, Anne Fauquemberg.
Oui, c'est une affaire au long cours et qui révèle des vides législatifs et judiciaires pour la société. Cette femme transgenre est née il y a 51 ans dans un corps d'homme et en 2011, après ce qu'on appelle une transition, elle a été officiellement reconnue comme femme par l'état civil. Sa petite fille, aujourd'hui âgée de 6 ans, est née en 2014 à une époque où Claire, bien que femme, possédait encore ses organes reproducteurs masculins, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis, elle réclame d'être reconnue comme mère dans l'acte de naissance de son enfant, qui pour l'instant n'a qu'un seul parent officiel. Fin 2018, vous l'avez dit, une cour d'appel avait accordé à Claire un statut de parent biologique, décision inédite mais insuffisante pour ce couple de femmes qui s'était pourvu en cassation. Lors de l'audience, en juin dernier, l'avocate générale s'était prononcée pour une reconnaissance de la réalité de l'état civil de Claire dans l'acte de naissance de son enfant, mais tout en proposant de mentionner le changement de sexe de sa mère. Aujourd'hui, la Cour de cassation a donc rejeté tout ce cheminement juridique, ce qui est inconcevable pour Clélia Richard, l'avocate de Claire.
C'est un rendez-vous pour ma part, je le dis, manqué par la justice française, c'est un scandale. C'est-à-dire que ma cliente, soit elle adopte son enfant comme l'exige le droit positif, dit la Cour de cassation, soit elle n'est pas une mère.
Et maintenant, Anne, quelles peuvent être les suites de cette affaire ?
Alors, l'adoption n'étant pas envisageable pour Claire et sa compagne, la Cour d'appel de Toulouse étant maintenant pieds et poings liés, ne pouvant proposer qu'un statut de père, Claire ne peut se tourner que vers la Cour européenne des droits de l'homme, déjà saisie d'un cas similaire en Allemagne.
Les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer et intersexes doivent être renforcés en Europe. C'est la conviction de la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen plaide pour la reconnaissance mutuelle des relations familiales dans l'Union. Vous êtes parent dans un pays, explique-t-elle, vous êtes parent dans tous les pays. Être soi n'est pas une question d'idéologie, c'est votre identité. Dans son discours sur l'état de l'Union européenne devant le Parlement européen, Ursula von der Leyen a plus généralement appelé les États membres à se serrer les coudes face au changement climatique et à la crise économique et sanitaire. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir.
La présidente de la Commission a commencé par rendre un hommage aux soignants et elle a plaidé pour une Europe de la santé.
Oui, la crise sanitaire a montré cruellement le manque de solidarité européenne dans ce domaine, a commencé la présidente. Elle va donc proposer, dit-elle, aux 27 États de créer une agence publique de recherche à l'échelle de l'Union sur le modèle de ce qui existe aux États-Unis. Elle a aussi plaidé à la tribune pour que l'Europe constitue des stocks stratégiques de médicaments.
Un virus mille fois plus petit qu'un grain de sable nous a montré à quel point la vie est délicate. Et pour moi, c'est très clair, on doit construire une Europe de la santé plus forte.
Et vous l'avez dit, elle veut également une Europe plus verte. Ursula von der Leyen a confirmé ce matin son objectif de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2030, actuellement fixé à -40% par rapport à 1990. Elle propose une baisse de 55%. C'est la fourchette haute de son engagement. Et pour y arriver, presque un tiers des 750 milliards d'euros du plan de relance européen sera levé via des obligations vertes.
Et la présidente européenne confirme aussi qu'elle veut une vaste réforme du règlement de Dublin, Angélique.
Oui, les images du camp de Moria nous rappellent douloureusement que l'Europe doit agir dans l'unité, a-t-elle déclaré lors de son intervention. L'Europe, qui accueille chaque année 2 millions de personnes et seulement 140 000 réfugiés, on doit pouvoir gérer cela, s'est-elle exclamée, en prenant à partie l'extrême droite européenne qui venait de l'interpeller sur le sujet migratoire. Alors, sans dévoiler le contenu de la réforme qu'elle veut proposer aux États mercredi prochain, elle prône l'abolition du mécanisme de Dublin, ce règlement qui fait peser la gestion des demandeurs d'asile sur les épaules des pays dans lesquels ils ont d'abord poser le pied, Grèce, Italie en tête. L'une des pistes envisagées, c'est de permettre à des agences européennes de co-gérer certains camps avec les autorités. Mais la réforme, plusieurs fois repoussée tant elle divise les Européens, sera beaucoup plus large que cela, m'a dit une source européenne. Et on laissera le temps au débat, a prévenu solennellement ce matin la présidente de la Commission.
Angélique Bouin, en direct de Bruxelles. Les autorités grecques avaient voulu bien faire, ayant rendu le port du masque obligatoire à l'école pour limiter le risque de contamination au Covid-19. Le gouvernement avait décidé de distribuer gratuitement des masques dans tous les établissements scolaires. Mais il y a eu cafouillage sur les mensurations et à l'arrivée, les masques étaient trop grands. Les Grecs préfèrent en rire, Angélique Coronis.
Je ne peux pas voir ma professeure, je ne peux pas respirer. Ces mots, accompagnés d'une photo où l'on voit le visage de l'élève caché derrière un énorme masque, a fait le tour de la toile. D'autres ont suivi et depuis hier, jour de la rentrée scolaire, les critiques satiriques et impitoyables contre le gouvernement jugé incapable de gérer la moindre crise fusent de toutes parts. C'est les parents d'élèves et les professeurs qui ont donné l'alerte. Le gouvernement accuse le fabricant de n'avoir pas compris la commande, ce que Yannis Staffopoulos, fabricant, nie énergiquement.
On a fait ce qu'on nous a dit et pour autant que je sache, tous les producteurs avaient prévenu que ça n'allait pas. On avait même donné des échantillons. On ne nous a pas demandé de créer des masques, mais d'en produire selon les directives données par l'Organisme national pour la santé publique de prévention du Covid.
Mais à quoi servent les masques, même trop grands, se demandent les Grecs sur Internet, si après la bénédiction religieuse obligatoire des classes le jour de la rentrée, tous les élèves embrassent la même icône ou la croix brandie par le pope. Depuis hier, 6 écoles ont fermé dans le pays pour cause de contamination au Covid-19.
Confronté à sa plus grave crise depuis la guerre civile, le Liban n'a toujours pas de gouvernement. Lorsqu'il s'est rendu à Beyrouth le 1er septembre, Emmanuel Macron avait donné 15 jours aux responsables politiques libanais pour s'entendre et pour former un gouvernement à la hauteur de la gravité de la situation, prêt à mener des réformes d'ampleur. Aurélien Colli, vous qui êtes à Beyrouth, vous suivez de près les efforts du Premier ministre Mustapha Adib.
Emmanuel Macron l'avait dit lors de sa dernière visite, le gouvernement libanais doit être un gouvernement de mission, composé d'experts indépendants des partis confessionnels, pour de vraies réformes qui permettent au Liban de sortir de la crise et d'accéder à l'aide internationale. Un objectif revendiqué aussi par le Premier ministre nommé juste avant son arrivée à Beyrouth et que les partis traditionnels avaient aussi accepté. Seulement voilà, pour composer une telle équipe, le Premier ministre libanais doit mettre fin à une vieille pratique de répartition des portefeuilles entre ses partis et il se heurte à ceux qui dominent la communauté chiite libanaise, le mouvement Amal et le Hezbollah proche de l'Iran, un tandem chiite qui veut nommer ceux qui le représenteront dans ce cabinet, qui veut aussi un quota lui offrant un tiers de blocage et qui veut enfin conserver le ministère des Finances, un poste clé puisqu'aucune décision n'est mise en œuvre sans passer par lui. Voilà donc l'origine du blocage, peut-être pas définitif, car les tractations continuent et Paris joue encore les médiateurs, avec un autre acteur qui lui a compliqué la tâche, les États-Unis, en sanctionnant la semaine dernière deux anciens ministres liés à ces partis chiites. Washington a entraîné un raidissement de leur position.
Aurélien Collet, correspondant de France Culture au Liban. Le gouvernement irakien a bien du mal à engager les réformes promises. En fonction depuis 4 mois, le Premier ministre Mustapha Al-Kazimi s'était engagé à combattre la corruption et les milices armées. Mais il est justement confronté à une nouvelle vague de violence. Des conflits tribaux ont éclaté ces dernières semaines. À Bagdad, 2 personnes ont été tuées, 17 autres blessées. Avant ces affrontements, le gouvernement peinait déjà à faire respecter l'état de droit et à placer les milices sous une chaîne de commandement centrale. Le ministère de l'Intérieur a voulu prendre le problème à bras-le-corps. Depuis le début du mois, de larges opérations ont été lancées à Bagdad et dans le sud du pays pour tenter de confisquer les armes illicites qui abondent sur son territoire depuis 2003, Lucille Wasserman.
Dans le quartier de Husseinia, El Mahamel, au nord-est de Bagdad, Shaker et son frère Saleh regardent d'un air abattu leur centre commercial, du moins ce qu'il en reste. Les structures métalliques qui servaient autrefois de charpente jonchent aujourd'hui pêle-mêle, un sol carbonisé, encore fumant. Shaker, en chemise manche courte et pantalon de costume, tente encore de comprendre comment un conflit entre sa tribu et celle voisine a pu mener à ce résultat.
Nous avons appris que la maison de notre frère, juste à côté, était attaquée. Et quand on est arrivé ici, il y avait des tirs et des hommes armés sur le toit. On a essayé de leur parler pour leur dire que nous n'avions rien à voir avec leur conflit. 5 ou 10 minutes après, notre centre commercial à côté était mis à feu.
Les deux frères contournent le centre commercial et s'enfoncent dans la maison attaquée ce soir-là.
Regardez, il y a des impacts de balles ici, là-bas aussi. Au final, on a dû venir récupérer la maison avec les forces de sécurité.
Shaker fait défiler les vidéos de l'intervention sur son téléphone portable. On y voit les véhicules blindés des forces de sécurité irakiennes qui avancent par dizaines dans la nuit éclairée de Bagdad. Puis des tirs, par centaines cette fois, qui résonnent dans le quartier. D'autres opérations lancées par les forces de sécurité ont eu lieu dans le sud du pays pour confisquer les armes illicites et mettre fin au crime organisé. En Irak, près de 7 600 000 armes seraient détenues par des civils, selon Gun Policy, expliquant en partie pourquoi le pays est l'un des plus dangereux au monde. Une réalité sanglante que Mohamed Kadem, un voisin de Shaker, ne connaît que trop bien. Il a perdu son fils de 29 ans dans le conflit entre les deux tribus rivales. Assis chez lui à même le sol, vêtu d'une dije d'acha blanche, la longue tunique des hommes en Irak, il demande justice pour cette perte et cet affront à sa famille.
Notre tribu se vengera. Il y a 2 morts et 2 blessés chez nous. Si les tribus ne s'associent pas et ne trouvent pas de solution, il y aura un problème, un gros problème. Le gouvernement doit poursuivre les tueurs, mais il n'y a aucun pouvoir ici. Leur armée, les forces de mobilisation populaire, ils sont tous inutiles.
Dans la culture tribale, c'est la loi du talion qui domine. Pour Mohamed, elle n'existe que si l'État est faible.
Tant que l'État est faible, il n'y a pas de solution. Si l'État avait le contrôle des armes et qu'il n'y en avait pas chez les gens, rien de tel ne se passerait. Ils se disputeraient simplement dans la rue et c'est tout.
Dès sa prise de fonction, le Premier ministre irakien Mustafa Al-Kadhimi s'est engagé à confisquer les armes illicites en Irak. Un défi de taille dans un pays où ses équipements sont majoritairement détenus par de puissantes tribus ou milices.
Un dossier signé Lucille Wasserman. Pour dénoncer les discours de haine et la désinformation sur les réseaux sociaux, des célébrités américaines boycottent Instagram et Facebook pendant 24 heures. Kim Kardashian, Léo DiCaprio ou encore Jennifer Lawrence appellent les grandes plateformes à censurer les discours racistes, suprémacistes ou qui mettent en danger les élections. C'est le dernier événement en date d'un mouvement né en juin dans le sillage des manifestations antiracistes et intitulé Stop Hate for Profit. Ces personnalités accusent Facebook de prospérer sur les discours de haine, Maxime Tellier.
Oui, et si vous faites partie des 188 millions d'abonnés à Kim Kardashian sur Instagram, pas de chance, vous allez devoir vous passer de ses conseils mode aujourd'hui. À la place de vidéos sur des culottes trop mignonnes, elle publie une seule image avec le message « Stop hate for profit » et appelle les internautes à faire de même. Ce mouvement est né en juin et récemment, il reproche à Facebook de ne pas avoir censuré un groupe qui appelait à venir armé lors d'un rassemblement anti-Black Lives Matter. Or, l'un des participants avait tué 2 personnes avec un fusil d'assaut, c'était le mois dernier.
Et est-ce que ce boycott est efficace, Maxime ?
Eh bien, il touche à l'image de marque de ces réseaux avec un impact sur les annonceurs, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Levi's, plusieurs grandes marques avaient suspendu leur budget publicitaire chez Facebook cet été avec des conséquences financières qui portent leurs fruits. Romain Badoir est chercheur en communication à Paris 2, Panthéon Assas.
Oui, c'est indéniable que les réseaux sociaux sont de plus en plus interventionnistes sur les contenus qu'ils hébergent, et cela parce qu'ils reçoivent une triple pression qui vient à la fois des États qui font passer des nouvelles lois pour les pousser à réguler davantage, une pression qui vient du marché par les annonceurs qui veulent que leur publicité soit exposée dans des environnements pacifiques, si je puis dire, et puis aussi une pression qui vient des usagers eux-mêmes qui exigent des formes de modération plus fortes vis-à-vis des discours racistes, homophobes, antisémites.
Avec des risques d'atteinte à la liberté d'expression, on l'a vu en France avec la loi Avia contre la haine en ligne, quasi intégralement censurée par le Conseil constitutionnel à cause de cela en juin dernier. Au fond, personne n'avait anticipé que Facebook et les autres réseaux sociaux allaient devenir les nouvelles agora de la vie politique au 21e siècle. Et on n'a pas encore trouvé comment les réguler.
Maxime Tellier. Météo France prévoit demain une belle journée dans l'ensemble. Il y aura quand même plus de nuages et des averses possibles dans l'Est. Les températures resteront chaudes. 21 à 24 degrés l'après-midi sur les côtes de la Manche. 27 à 34 sur le reste de l'Hexagone. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.